Vis une nouvelle expérience. Écoute la nef des sciences. Participe à l'aventure des podcasts Science et Culture.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la fête des sciences au village des sciences à Colmar et nous sommes le 12 octobre 2024. Je suis avec Olivier Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Donc Olivier Lemaire, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche en sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de Colmar. Et vous faites partie de l'équipe qui travaille sur la vaccination des plantes. Et donc vous êtes animateur de l'équipe virologie à l'INRAE de Colmar. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Olivier Lemaire. Je suis directeur de recherche à INRAE Colmar. Et je dirige l'équipe de virologie Vexion, où nous intéressons à la fois à des études fondamentales sur les interactions entre les virus, les plantes et les vecteurs, hein, que ce soit des vecteurs, des pucerons qui transmettent des maladies virales comme la jaunisse de la betterave, ou des maladies de la vigne comme le cournouet, qui est transmis lui par un nématode, un petit ver du sol, qui transmet un virus à la vigne. Et c'est dans ce contexte-là que nous développons une stratégie de biocontrôle, donc de lutte biologique, contre ce virus en... Alors, c'est un petit abus de langage, mais l'analogie est assez fidèle, en vaccinant les plantes et en vaccinant la vigne. Alors, on en est pour l'instant à des expérimentations, donc c'est encore expérimental, mais nous avons bon espoir que d'ici à l'horizon 2030-2035, on puisse proposer aux viticulteurs une solution de lutte biologique, de biocontrôle contre la maladie du cournouet en vignoble.
La vaccination des plantes, les virus des plantes, c'est pas des choses dont on entend parler tous les jours. Est-ce qu'il y a des spécificités sur les virus des plantes, des différences avec ceux qui peuvent affecter les humains ou les animaux ?
Alors oui, contrairement aux mammifères, les plantes n'ont pas de système immunitaire, donc, enfin, ou la plupart des animaux, les plantes n'ont pas de système immunitaire, mais peuvent et déclenchent des réactions de défense basées sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance du pathogène qui rentre dans la plante, le plus souvent par l'intermédiaire d'un vecteur. Et ce sont ces réactions de défense que l'on cherche à exploiter pour le développement de cette stratégie qu'on appelle la prémunition. Qui est, encore une fois, on peut trouver une analogie avec la vaccination, à la différence près que, bien entendu, les plantes ne synthétisent pas d'anticorps une fois qu'elles ont été infectées par un virus. Il est vrai que lorsqu'on parle de vaccination chez l'homme, on parle d'utilisation alors soit de virus atténués, soit de virus inactivés, soit d'éléments du virus. Hein, pensons au vaccin à ARN messager pour se prémunir de la Covid. Ben, c'est un petit peu la même chose chez les plantes, hein, puisque le principe, c'est d'utiliser un virus atténué de ce fameux virus de la maladie du cournouet, de primo-infecter une plante, on peut dire de la vacciner, cette plante pouvant être, si les conditions sont favorables, protégée de la surinfection par le virus pathogène.
Est-ce qu'un virus d'une plante pourrait contaminer un autre être vivant comme un humain ou un animal ?
Un virus de plante est spécifique à la plante. Donc on n'a absolument pas de croisement pathogénicité entre un virus de plante et un virus chez l'homme et inversement, ou même un virus chez l'animal. La seule spécificité qu'on puisse avoir chez les virus de plantes, c'est leur interaction avec les vecteurs, notamment les insectes. Et dans certains cas, on peut avoir une multiplication du virus de la plante dans l'insecte. Mais ça ne dépasse pas ce stade-là. Donc on peut dire qu'il y a une frontière absolument étanche entre la virologie végétale, au niveau bien sûr de la pathogénicité, et la virologie végétale. Et je rajouterais que, quand bien même il y a cette barrière, on utilise les mêmes méthodes d'analyse qu'en médecine. Je prendrai comme exemple l'utilisation du séquençage à haut débit qu'on utilise dans nos laboratoires maintenant pour connaître le microbiote viral des plantes. c'est la même chose qui est utilisée pour évaluer la dispersion de variants, de sous-variants du Covid à l'heure actuelle.
Et vous travaillez donc sur la vigne. Pourquoi la vigne ? Est-ce que c'est une plante qui a des différences avec d'autres plantes, des spécificités ?
Alors, je dirais que c'est la spécificité d'INRAE Colmar. On travaille sur la vigne, sur les maladies de la vigne et sur la génétique de la vigne pour la création de variétés résistantes. Alors là, je parle de variétés résistantes au mildiou, à l'oïdium. On a fêté il n'y a pas longtemps les 150 ans de la station expérimentale qui avait été fondée à l'époque où programmes de recherche prennent leurs racines dans cette histoire très longue. Et d'ailleurs, on se trouve ici aux Quatrinettes. Il faut savoir que la première station était basée ici aux Quatrinettes, station expérimentale en viticulture, et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore le laboratoire d'œnologie et la cave de l'INRA de Colmar qui était sous nos pieds. Donc c'est ce qui explique l'intérêt de non seulement historique, mais bien sûr l'intérêt scientifique et l'intérêt économique de travailler sur ces maladies virales qui sont à l'origine de, si c'est une des causes majeures du dépérissement du vignoble en France et dans le monde.
Et en pratique, comment on vaccine une plante ?
Ah, alors la question est très intéressante, c'est que on ne va pas utiliser une seringue, une aiguille, et on ne va pas piquer la plante pour la protéger comme ce qui se passe chez nous. C'est un petit peu plus complexe, ça prend un petit peu plus de temps. Très concrètement, comme je l'ai dit dès le départ, c'est une méthode de biocontrôle. On va exploiter la biodiversité du virus et de ses interactions avec la vigne. Et c'est sur la base d'observation au vignoble. Donc ce qu'on recherche est dans un foyer où il y a la maladie, donc les symptômes de cournouée, où on a de la jaunisse, de la panachure, où on a du rabougrissement, où les grappes, où la plante est déformée, rabougrie, où les grappes ne produisent quasiment plus de baies, de raisins. Il faut savoir qu'on peut avoir jusqu'à 80% de perte de rendement avec cette maladie. Et bien, parfois, au milieu d'un foyer fortement infesté par le virus, on trouve une plante qui ne semble pas malade. Alors, on étudie cette plante. Comme je le disais tout à l'heure, on utilise des méthodes de séquençage à haut débit pour décrire ce qu'on appelle son microbiote viral, son virome. Et on découvre dans ce virome, souvent, très souvent, un variant du virus du cournoué qui s'appelle, alors c'est des acronymes anglais, c'est le Grapevine Family Virus, donc c'est le GFLV, c'est le virus, c'est le nom scientifique du virus sur lequel on travaille. Et on étudie l'ensemble des virus qui se trouvent dans cette plante, on étudie également le variant viral qui se trouve dans cette plante, qui va être potentiellement un candidat à la prémunition. Si cette plante est juste infectée par ce virus pathogène, entre guillemets, ce virus GFLV, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres virus qui font partie de son microbiote, le microbiote viral comme chez l'homme, on va tout simplement multiplier végétativement cette plante, donc on va la bouturer dans des conditions contrôlées, donc en l'absence dans des serres, en hors-sol bien entendu, en l'absence du vecteur, je rappelle que c'est un petit ver qui se trouve dans le sol, à l'abri d'autres vecteurs aériens qui peuvent être des cochenilles, des ériophytes, enfin voilà, on a pas mal de vecteurs aériens qui peuvent également transmettre des virus à la vigne. Et ensuite, une fois qu'on a suffisamment de matériel, bien entendu, on greffe ces boutures sur des porte-greffes issus de la sélection sanitaire, donc exempt de tout virus pathogène également, et on met en place des expérimentations en vignoble. Et donc on en est à cette phase actuelle, déploiement de ces expérimentations dans le vignoble national, en particulier en Champagne avec le comité Champagne, en Bourgogne avec l'interprofession bourguignonne, en Alsace bien entendu avec l'interprofession alsacienne, mais également dans d'autres régions comme la région de Châteauneuf-du-Pape et puis prochainement dans le Bordelais.
Et tout à l'heure, vous disiez que les plantes n'ont pas de système immunitaire. Donc une plante ne peut pas guérir d'une maladie virale toute seule ?
Alors si, bien sûr, on a ce qu'on appelle alors soit des phénomènes de résistance, hein, on travaille également sur la caractérisation de gènes de résistance de des plantes et de la vigne en particulier à ces virus. Donc on en a identifié déjà quelques-uns sur lesquels on travaille. Alors ça reste encore des recherches très fondamentales. Et on peut aussi avoir, c'est un petit peu le phénomène que l'on recherche dans la prémunition, on peut avoir ce phénomène également d'exclusion du virus lié au fait que la plante est déjà primo-infectée par des virus apparentés génétiquement ou dans d'autres interactions défavorables au virus pathogène. Donc oui, les plantes se défendent et peuvent résister, bien entendu, au virus.
Ah, donc j'imagine que pour mener ces recherches, vous devez travailler de près avec les agriculteurs, non ?
Oui, absolument. En fait, on travaille actuellement, et c'est ma collègue Emmanuelle Vigne, ingénieure de recherche à INRAE dans notre équipe, qui coordonne un ensemble de projets sous l'appellation Vaccivine. Hein, c'est un nom qui est très évocateur, justement, qui permet de croiser à la fois le concept de vaccination et de vigne, hein, Vaccivine. Et on travaille, c'est un consortium d'une quinzaine de partenaires, alors des partenaires de la recherche, hein, institutionnelle, et puis un grand nombre de partenaires de la filière vitivinicole, et en particulier, bien entendu, l'Institut technique de la vigne et du vin, l'IFV, et puis les interprofessions viticoles avec comme pilier le comité champagne, l'interprofession bourguignonne et puis l'interprofession alsacienne. On travaille également avec la région Grand Est, hein, qui nous soutient fortement. On travaille également avec des maisons privées, hein, pour n'en citer que deux. On travaille avec Mouette et Chandon, qui soutient nos recherches depuis de très longues années, et puis avec le groupe Artemis en Bourgogne, avec qui on a également un partenariat de longue date également. Donc on a un fort soutien de la filière vitivinicole, des pépiniéristes. On travaille également avec un pépiniériste basé en Bourgogne. On travaille avec les chambres d'agriculture, les partenaires des syndicats viticoles et bien entendu, hein, et c'est pas le moins important, last but not least, avec les viticulteurs qui nous permettent justement d'établir nos expérimentations en situation réelle de production. Donc c'est une des particularités de ce projet, c'est qu'on mène à la fois des recherches très fondamentales au laboratoire, dans nos serres, dans nos laboratoires de biologie moléculaire, de virologie, de nématologie, en utilisant des technologies utilisées en santé humaine. Hein. Je parlais tout à l'heure de séquençage à haut débit. On fait appel à des bioinformaticiens. On a un fort partenariat avec l'IFV dans ce domaine-là, puisqu'on a un laboratoire partenarial associé au sein de notre équipe, hein, donc IFV INRAE. Et ça nous permet de développer ces recherches à la fois très fondamentales et bien entendu très appliquées en vérifiant l'efficacité, en testant l'efficacité de ces approches en situation réelle de production.
Et aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients pour les viticulteurs qui souhaitent utiliser ces plants vaccinés ?
Alors je dirais l'inconvénient, c'est que c'est sur du temps long. Hein. C'est vrai que la recherche, vous avez bien compris qu'on doit absolument s'assurer déjà de l'efficacité. Je vous ai montré tout à l'heure que ça marchait sur des eaux herbacées. Donc là, on est en train de faire la démonstration que ça peut marcher également sur vigne, mais bien entendu en confinement, en milieu confiné, en serre. Il faut qu'on montre maintenant que ça marche au vignoble. C'est le but des expérimentations qui sont menées avec les partenaires dont je vous ai cité. Et je pense que nos premiers résultats, on les aura en Champagne et en Bourgogne. Ensuite, il faut s'assurer de la durabilité de la stratégie. Alors on a également tout un volet qui concerne l'évolution des virus qui va être développé à partir de 2025 pour vérifier effectivement qu'on a une stabilité génétique et une stabilité de l'interaction qui fait qu'on a toujours cette efficacité, cette protection. Et puis il va falloir qu'on développe une filière de production de plants labellisés, prémunis. Et donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer avec la pépinière française et notamment les pépinières Guillaume dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a des risques peut-être de nouvelles résistances de virus ou pour l'environnement ?
Alors des risques de résistance, je dirais que À notre niveau, le seul risque qu'on prend, c'est tout simplement que ça ne marche pas, parce que c'est une stratégie, contrairement à la vaccination chez l'homme, où on peut vacciner tout type d'humain dans n'importe quel type d'environnement, là on va vacciner, on va protéger les villes, on va les primo-infecter avec un virus atténué, mais on va réintroduire obligatoirement, et ça sera de toute façon un impératif, on va réimplanter obligatoirement ces villes primo-infectées avec ce virus atténué dans les zones où se trouve la maladie, donc dans le vignoble dans lequel dans lequel on a un sol infesté par le nématode, qui est un petit ver microscope qui se trouve dans le sol et dans lequel on a présence du virus et du nématode. Ça s'adressera uniquement aux viticulteurs qui souffrent de ce dépérissement viral, qui ont ce problème de cournouée dans leur parcelle.
Et est-ce que vous avez connu des difficultés pendant ces recherches? Je pense par exemple aux faucheurs d'OGM. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a affecté?
Alors je dirais non, peut-être au contraire, puisque ça nous a permis d'interagir avec les partenaires, la Confédération Paysanne, les partenaires des associations de viticulture biologique. Donc au contraire, on avait déjà un réseau au travers du comité local de suivi qui avait été mis en place à l'époque, qui avait permis cette co-construction pour l'acquisition de connaissances avec ces porte-greffes transgéniques. Ça nous a permis justement d'aller peut-être un petit peu plus vite dans la constitution de ce partenariat et aussi dans la connaissance des mécanismes de défense de la vigne.
Et avant de conclure cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'INRAE, donc l'Institut National des Recherches pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement? Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un institut qui se situe entre la recherche académique et la recherche finalisée. C'est un institut qui, comme vous pouvez le constater, a un panel de spécialistes qui est extrêmement vaste. Alors, contrairement au CNRS, qui a aussi un panel de spécialistes et de recherche très diversifié, l'INRAE, on va dire, marche sur trois pieds, la recherche académique fondamentale, la recherche appliquée, et puis la mise en place de relais avec les interprofessions. Et cette spécificité fait que on travaille à tous les niveaux de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Pour vous donner un exemple qu'on entendait ce matin sur les grandes sur France Inter, c'était que une directrice de recherche de Bordeaux travaille actuellement sur la présence de résidus de pesticides chez des enfants, dans leurs urines, dans leurs cheveux, etc. C'est une question extrêmement importante en santé humaine, dans la mesure où on est en train de corréler actuellement la présence de pesticides avec l'apparition, une probabilité plus importante d'apparition de cancer chez l'enfant. Les perturbateurs endocriniens, les phtalates, c'est aussi des questions de santé publique qui ont été travaillées par INRAE. On pense également au microbiote intestinal. Et puis, maintenant, depuis plus récemment, puisqu'on a le E, c'est pour environnement, avec la fusion avec l'IRSTEA, on travaille sur des problématiques liées au changement climatique, à l'érosion. Et par exemple, concrètement, il y a une expérimentation qui est menée dans la vallée de Chamonix pour prévenir des avalanches qui sont de plus en plus fréquentes en haute montagne pour préserver les habitations et les vallées de ces problèmes d'érosion.
Et pour nos jeunes auditeurs et auditrices qui aimeraient devenir médecins pour raison comme vous, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Comment on arrive à travailler en tant que directeur de recherche à l'INRAE?
Alors je dirais que c'est un petit peu comme les études médicales, puisque on est ce qu'on appelle des médecins des plantes. Le terme un peu savant, c'est phytiatre. Je préfère dire que je travaille en santé des plantes plutôt qu'en maladie des plantes. C'est comme pour la médecine, c'est-à-dire qu'il faut faire des études longues. Le parcours, c'est soit on démarre soit par une école d'ingénieur en agronomie, comme AgroParisTech par exemple, ou une filière universitaire avec un master 2. Après, si on veut passer dans le domaine scientifique, il faut faire une thèse. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai fait ma thèse à Strasbourg dans un laboratoire du CNRS. Après, généralement, après la thèse, on part à l'étranger. On parle de séjour post-doctoral. Donc là, ça nous amène à bac plus 10 facilement. Et puis à partir de là, on passe des concours de la fonction publique pour entrer dans des instituts comme INRAE, le CNRS, l'IRD, le CIRAD, enfin voilà, des instituts qui travaillent effectivement sur la santé des plantes.
Et pour terminer, aujourd'hui, nous sommes donc aujourd'hui le 12 octobre 2024, nous sommes donc à Colmar, au village des sciences, rempli de stands, de plein d'associations, instituts de recherche, etc. Pourquoi l'INRAE a choisi de venir mettre un stand aujourd'hui pour présenter ses travaux sur la vaccination des plantes ?
La santé des plantes est très mal connue du grand public. Je pense qu'en particulier la virologie des plantes, on connaît bien le mildiou, l'oïdium, on connaît la flavescence dorée, on connaît ces maladies, on va dire, plus visibles que les maladies virales. C'est vrai que c'était important pour nous d'être présents ici pour montrer d'une part nos recherches et puis les fruits de nos recherches qui, on l'espère, vont être valorisés sous peu et qui vont bénéficier à l'ensemble de la viticulture nationale. Et puis aussi pour montrer aux élèves, aux étudiants qu'on peut effectivement, que le métier de phytovirologiste, de virologue des plantes est un métier absolument passionnant qui se rapproche beaucoup des recherches qu'on peut mener dans le domaine médical.
Merci beaucoup Olivier Lemaire, directeur de recherche à l'INRAE de Colmar, l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
Vis une nouvelle expérience. Écoute la Nef des Sciences. Participe à l'aventure des podcasts Sciences et Culture.